Pour les participants à distance, je vous annonce, nous allons commencer dans 2 minutes.
All right, I think we'll get started here.
Bien, nous allons commencer. Merci tout le monde et bienvenue à cette séance de révision et de participation de l'équipe de révision de concurrence, confiance et choix du consommateur. Si vous participez à distance ou à travers le téléphone, nous allons publier des enregistrements MP3 à la fin de la session pour que vous puissiez nous faire parvenir vos contributions. C'est la flèche du pointeur. Nous avons des problèmes techniques pour passer les diapos. Et le personnel technique m'a dit qu'il faudrait que j'aie la possibilité de le faire avec ce pointeur, mais ça ne semble pas fonctionner.
So by way of background,
Bien. Comme contexte, on commence déjà à voir passer les diapos. Je dirais que c'est la diapo numéro 7. C'est la diapo numéro 2, c'est bon? Ah oui, d'accord. Bien, merci tout le monde et bienvenue encore une fois. La révision de concurrence, confiance et choix du consommateur était une des révisions qui a été demandée par l'affirmation d'engagement et qui fait partie de la proposition de responsabilité qui a été intégrée au statut constitutif dorénavant. Et on nous avait demandé de faire une révision du degré ou de la mesure dans laquelle le programme des nouveaux GTLD avait encouragé la concurrence, le choix et la confiance du consommateur, ainsi que l'efficacité du processus de candidature et d'évaluation, ainsi que les sauvegardes. Voici le concept qui a mené à cette révision.
Ah.
Comme vous voyez sur l'image, on a une équipe de révision qui est formée de 17 personnes au total. Au sein de cette équipe, on a assuré la diversité géographique. Vous voyez ici d'où viennent les membres du groupe. On a 4 experts indépendants. Et le groupe est également intégré par des représentants du PDG du GAC, de l'ICANN et du président du GAC, ainsi que de membres de la communauté. Diapo suivante. Ici, vous voyez la distribution des membres. On a des représentants des SO et des AC, des représentants donc de la GNSO, de la LAC du GAC et de la CCNSO. On a également des experts indépendants qui conforment le groupe et des représentants du PDG de l'ICANN et le président du GAC. Diapo suivante. Donc, c'est Jonathan Sack au micro. Nous avons divisé le travail en 3 sous-équipes, dont une s'occupait de la concurrence et du choix du consommateur, une autre s'occupait de la confiance du consommateur et des sauvegardes, et troisièmement, du processus de mise en application et d'évaluation. Donc, le processus de dépôt de candidature et d'évaluation. Nous avons un plan de travail que nous avons mis en œuvre qui était pour déterminer quels étaient les aspects clés sur lesquels il fallait se concentrer. Donc on vous a demandé de nous aider à définir quels étaient les domaines de travail clés. On a défini des ensembles de données. Pour ceux qui ne connaissent pas le domaine, on a préparé des documents qui comprennent les informations recueillies au cours des dernières années, qui informeront la révision et les études économiques de la première étape et le sondage de titulaires de noms de domaine et des utilisateurs pour l'étape 1. Et les résultats seront publiés en juin et les résultats de l'étude économique aussi seront publiés à cette même date. On s'attend à recevoir des recommandations à la suite de cette date de publication et de travailler peut-être sur le processus d'évaluation des nouveaux GTLD qui pourront peut-être déjà commencer à utiliser certains des résultats de notre étude, certaines des conclusions. Après quoi, nous allons publier une version préliminaire pour consultation publique ensemble avec des recommandations qui seront également publiées pour consultation publique. Et nous comptons donc publier le rapport final vers la moitié de l'année prochaine. Nous avons donc divisé nos travaux en sous-équipes et nous avons 3 présidents des sous-équipes, dont Jordan Buchanan, qui préside la sous-équipe de concurrence et de confiance et de choix du consommateur. L'équipe de confiance et de sauvegarde du consommateur est également en existence. Et puis nous avons quelqu'un qui va présider le troisième groupe. Donc je vous présente maintenant Jordan Buchanan, qui va présenter les sujets liés à la concurrence et au choix du consommateur. Jordan? Jordan Buchanan au micro. Merci. Merci, Jonathan. Pour pouvoir planifier nos travaux, comme disait Jonathan, dans le plan de travail général, la sous-équipe de concurrence et de choix du consommateur s'est concentrée sur les travaux à faire. Ce que nous avons fait à travers des questions que nous avons publiées, qu'il nous semblait qu'il serait bon de répondre au cours de la révision. Nous avons consacré un peu de temps à la rédaction de ces questions parce qu'on ne voulait pas publier toutes les questions existantes concernant la concurrence et le choix du consommateur, mais plutôt parce qu'il nous semblait qu'il fallait que l'on publie les questions les plus importantes et que c'était sur cette question que nous allions pouvoir obtenir des informations pertinentes au cours de la révision. Donc, dans le cadre de cet exercice, nous avons également évalué les sujets que nous avons essayé de classer selon la priorité, qui pourrait être plus ou moins haute. Je vais d'abord présenter les sujets qui nous semblaient être des questions prioritaires. Et nous voudrions savoir les retours de la communauté sur ces domaines. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que les sujets qui ont été identifiés comme prioritaires sont les sujets qui vous semblent prioritaires? Comme Jonathan l'a dit, nous allons travailler là-dessus les prochaines semaines et les prochains mois. Donc il faut absolument que l'on sache si ce sont les bonnes questions sur lesquelles nous nous concentrons pour obtenir les bonnes données. L'idée est que cette révision se fonde sur des mesures et sur des données et des faits spécifiques plutôt que de vous donner nos opinions. Donc pour ce faire, nous avons essayé d'obtenir les bonnes données, ce qui prend du temps des fois. On a trouvé deux études qui ont déjà été faites pour soutenir notre travail, dont l'une par l'équipe de Nancy qui évaluait les aspects comparatifs et puis l'équipe de Nielsen qui a fait un sondage comparatif. Donc ces deux études seront utilisées au cours de la deuxième étape. Nous essayons de reprendre le travail sur les annonces pour pouvoir commencer à travailler tout de suite. Je vous expliquerai tout de suite quelles sont les questions clés que nous avons identifiées et par la suite, nous allons donner l'occasion à la communauté de nous dire si on est sur la bonne voie ou pas. Dans le domaine de la concurrence, nous avons identifié 5 questions clés que nous essayons de répondre. Les premières 2 questions sont assez évidentes. Donc, d'une part, est-ce que le lancement des GTLD, des nouveaux GTLD dans la série de 2012 a fait un bon travail pour l'encouragement de la concurrence au niveau du prix, surtout pour encourager le choix du consommateur et réduire les prix? En même temps, on voudrait savoir si le lancement des nouveaux GTLD a eu un impact sur la concurrence autre qu'au niveau du prix. Donc, est-ce que les registres offrent de nouvelles caractéristiques? Est-ce que les utilisateurs sont attirés par cette nouvelle fonction, par ces nouveaux GTLD? Et est-ce qu'ils choisissent d'utiliser les nouveaux GTLD parce qu'ils sont enthousiasmés par la possibilité d'avoir d'autres mots? Donc, on évalue la concurrence au-delà du prix aussi, comme vous voyez. Un des résultats que nous avons identifiés est que le fait que la plupart des prix de ces nouveaux GTLD est un peu plus, sont un peu plus chers que les TLD hérités. Les prix sont plus élevés et donc on voulait voir si cela était une mesure efficace pour mesurer la concurrence. La troisième question porte sur un domaine plus compliqué. Lorsqu'on parle de concurrence, on parle de concurrence entre acteurs, entre qui, et dans un marché spécifique pour vendre un produit. Et donc l'autre question est quoi? Qu'est-ce qu'on vend? Je pense donc que ce sera très difficile de comprendre quel est le marché dont on parle. Et il serait également difficile de voir si un titulaire de nom de domaine essaie d'acheter un nom de domaine de premier niveau. Et s'il a le choix entre différents bureaux d'enregistrement ou pas, ou si les titulaires de nom de domaine dans une région ont à choisir entre le CCTLD local ou un ensemble de CCTLD. Si quelqu'un veut publier un site web sur la photographie et qu'il y avait des TLD similaires qui pourraient faire la commercialisation de ce qui l'intéresse, ça, il aurait le choix. Dans notre sous-équipe, nous avons beaucoup d'économistes qui ont suggéré qu'il est fort probable que l'on n'arrive pas à répondre à cette question de manière définitive. Donc, il faudrait voir les résultats du marché et les effets sur la concurrence. On abordera la question de différents points de vue. La quatrième question dans le domaine de la concurrence est qu'au lieu d'évaluer la concurrence entre TLD, il faut évaluer comment cela a affecté les différents canaux de vente, les différents moyens de vente. Parce que vous savez qu'ici, à l'ICANN, les TLD vendent à travers les bureaux d'enregistrement. Ils ne vendent pas directement au public. Donc, il faut voir si le lancement des nouveaux GTLD a eu un impact ou pas au sujet de la concurrence entre les bureaux d'enregistrement et ou entre les revendeurs. Finalement, la cinquième question est un sujet dont les consommateurs ont entendu parler, un sujet qu'ils connaissent. S'ils ne connaissent pas le produit ou le service, il n'y aurait pas moyen de l'acheter. Donc voilà les questions clés, la cinquième étant s'ils connaissent suffisamment le produit pour qu'il y ait une concurrence. J'ai identifié donc les sujets. Est-ce qu'on devrait... Oui, vous me permettez de présenter les autres deux diapos ? Notre sous-équipe se concentre également sur un autre domaine qui est le choix du consommateur. Et là-dessus, nous avons identifié trois questions clés. La première est si la segmentation et la réglementation de l'espace de nom en davantage de profondeur ajouterait de la valeur à la navigation de l'espace de nom par les consommateurs. Donc on a par exemple point pharmacie qui est consacré aux pharmacies ou point photo qui n'est pas limité aux photographes, qui est accessible à toutes les personnes qui veulent publier des photos. Donc ces nouveaux TLD en fait divisent l'espace de nom et lui donnent une segmentation et une réglementation qu'on n'avait pas auparavant. Les personnes qui vont naviguer sur Internet ont besoin d'aide peut-être pour trouver les contenus auxquels ils veulent accéder. Dans ce nouveau cadre, bien sûr. Les noms de domaines sont enregistrés et cela a plutôt un trait au sujet de la concurrence, pas tellement à la question du choix. D'autre part, on se demande si les bénéfices de l'augmentation dans la quantité de choix ont compenser le potentiel de confusion au niveau du prix ou du coût. Auparavant, les personnes étaient habituées à avoir très peu de TLD et le fait qu'on ait tellement plus de TLD en ce moment pourrait ajouter une valeur ou pas. Donc c'est ça qu'on veut évaluer, si ça ajoute de la valeur ou si ça complique le processus pour le consommateur. Et finalement, la troisième question porte sur le fait de savoir si les consommateurs des différentes régions ou qui parlent différentes langues ou qui utilisent différents scripts trouvent des bénéfices à différents niveaux à travers les nouveaux TLD. Donc on veut savoir si les personnes en Amérique du Nord tirent les mêmes bénéfices des TLD que les personnes en Afrique ou si les anglophones ont les mêmes bénéfices que les Thaïlandais, par exemple, parce qu'ils ont les mêmes choix et les mêmes options. L'autre question qui reprend cela est le fait que même si les TLD fournissent davantage de choix, il faut voir si les clients ont suffisamment d'endroits où acheter les noms de domaine. Donc on doit évaluer tout cela. Voilà donc les questions clés que nous avons identifiées comme prioritaires, sur lesquelles nous allons nous concentrer d'emblée. Et nous avons également identifié d'autres questions qui ne sont pas prioritaires. Par exemple, on se demande si les différents types de TLD, parce que vous saurez qu'il y a des candidats qui ont représenté des communautés d'un type et se sont présentés comme communautés, mais il y a eu d'autres candidats au TLD qui étaient des TLD géographiques, comme point Berlin ou point NYC. Ce seraient des exemples de noms géographiques. Je sais qu'il y a également d'autres TLD de marques. Or, étant donné qu'il y a différents types de TLD, on veut savoir si cela fournit davantage de choix à un autre niveau. Donc, ce qui est important est de voir si on voit davantage de concurrence en vertu de ces différents types de TLD. Cela a été identifié comme étant une question non prioritaire, bien sûr. Puis, d'autre part, on a une deuxième question qui est lié au fait que beaucoup de registres ont la possibilité d'agir différemment dans la manière de distribuer les noms aux personnes. Il y a des bureaux qui ont des ventes aux enchères, d'autres qui ont des listes de prix, il y a d'autres qui ont des programmes à partir desquels ils donnent la priorité au lancement aux différents noms de domaine. Donc on veut savoir si les personnes les utilisent mieux qu'auparavant en vertu de ces différents moyens de distribution. C'est une question un peu plus difficile d'évaluer, même la définition de ce qui est mieux est difficile. D'autre part, on se demande quel est l'effet de nouvelles technologies telles que les applications ou les réseaux sociaux dans l'utilisation des noms de domaine. Donc, les personnes pourraient peut-être vouloir utiliser les TLD, mais peut-être qu'elles ne voudraient pas le faire parce qu'elles utilisent d'autres technologies. Donc, ce qu'on veut mesurer là est la question de la concurrence liée à cela, donc la concurrence avec d'autres moyens de communication. On essaie d'évaluer comment on pourrait mesurer cela. Et ce qui est compliqué ici est la capacité de comprendre vraiment les effets. C'est ça qui nous empêche un peu d'aborder cette question tout de suite. En même temps, on ne sait pas si le moment est déjà venu où on a suffisamment d'informations pour pouvoir considérer tout cela ou si c'est un peu trop précoce. Mais au moins, ce serait intéressant d'obtenir des informations parce que la GNSO, surtout, a un autre PDP en en cours d'élaboration pour créer de nouvelles séries de nouveaux GTLD. Et d'autres questions qui sont liées est la question de si un TLD devrait avoir une taille définie pour pouvoir survivre, si cela définit les opérations du TLD, et puis même si la concurrence est bonne ou alors si elle n'est pas suffisamment bonne, il faut de toute façon évaluer si ce manque de mise à jour correspond au succès ou à l'échec des TLD. Si les personnes utilisent les TLD, on ne devrait peut-être pas évaluer cette question. Voilà donc notre plan, le plan que nous allons suivre pour nos travaux. Si les personnes ont des suggestions de ce qu'on devrait évaluer qui n'est pas inclus dans cette liste, on serait intéressé à savoir cela. Je pense que Jeff veut prendre la parole. Allez-y.
Newman.
Jeff prend la parole. Je l'ai dit avant dans la réunion du CCTL. Je pense que un domaine sur lequel nous devrions nous pencher, c'est de savoir quelles sont les règles de séparation au niveau des registres pour voir la concurrence. Et si les parties se détournent par rapport à ces règles, s'ils les respectent ou pas, il devrait y avoir un ensemble de règles de séparation dans cette série. Mais je pense qu'on a toujours penser que cela allait être analysé et révisé afin que l'on puisse analyser les contraintes ou le manque de contraintes de manière appropriée. Jonathan prend la parole. Oui, vous avez raison. Jordine prend la parole, pardon. C'est vrai, cela inclut donc la notion de savoir quelle est cette séparation. Et bien sûr, on va ajouter cette question qui est importante et nous allons l'ajouter à notre liste. Jordine prend la parole. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se joindre à nous au niveau de la table? Oui, je suis Aix. Je travaille pour Point Centre. Les CCTLD en Europe, nous avons vu qu'il y a beaucoup de membres qui utilisaient l'index HHI pour évaluer la concurrence dans leur propre marché. Je voulais dire tout simplement que ces données seront disponibles et qu'elles pourront être utiles pour vous, peut-être. Jordine prend la parole. Oui, nous avons reçu certaines informations de Center aujourd'hui et nous avons reçu des informations supplémentaires très récemment. Oui, je ne suis pas un expert en économie, mais j'ai entendu dire que les économistes de notre équipe se sont montrés intéressés par ces informations. Nous allons nous pencher là-dessus. Et ensuite, il faut voir la notion de concurrence entre GTLD, CCTLD dans le marché, pour voir si la division se fait au niveau des pays ou au niveau des continents. Alors, quelles seraient les alternatives? Donc, au moment d'enregistrer, nous sommes prenants pour cette proposition de nous faire parvenir des informations. Merci beaucoup. Jordine poursuit. Carlos voudrait faire un commentaire. Carlos prend la parole. Oui, c'est un commentaire pour Jeff. Le rapport d'analyse a analysé toute la chaîne de valeur du coût des nom de domaine versus le coût d'avoir un site web, un courrier électronique, etc. Donc ce n'est pas limité au registre, au bureau d'enregistrement, mais aussi au coût complet pour le titulaire de nom. Alice prend la parole. Merci, Jordan. Il y a une question sur Adobe Connect d'un participant à distance, Aaron Pace. Les consommateurs sont confrontés au comportement abusif au niveau des TLD. Y a-t-il moyen de faire face à ce problème dans des extensions? La question est la suivante. Est-ce que le groupe pourrait être intéressé à se pencher sur cette question pour mieux avertir les consommateurs? Jordine prend la parole. les enquêtes, je pense que cette question s'applique plutôt au sous-groupe qui va présenter son travail bientôt. Je pense que je vais sur la confiance du consommateur. Je pense que cette question, nous allons donc la poser à ce groupe et on y répondra plus tard parce qu'elle concerne plutôt la question de la confiance du consommateur. Très bien. Je vais donc passer la parole à Laurine. Laurine au micro. Bonjour. Merci, Jordan. Je vais me focaliser sur les protections et la confiance du consommateur. Et je vais vous faire un aperçu, donner un aperçu très général sur les domaines que nous avons identifiés jusqu'à présent. Et puisque je parle de préliminaire, cela veut dire que les personnes qui sont dans la salle ou qui nous suivent à distance peuvent nous donner des retours d'informations pour nous dire s'ils considèrent qu'il s'agit d'un... On considère, nous, que c'est un processus en évolution. Donc, nous voudrions obtenir de la part des gens qui suivent ces discussions leur avis pour voir si ces domaines sont appropriés pour notre étude, ce qu'ils en pensent. Voici donc ces domaines que nous avons identifiés. Ce sont des éléments de base que nous avons tout d'abord. Est-ce que le public peut naviguer et utiliser les nouveaux GTLD de manière sûre, en sécurité? Deuxième, quel est l'impact des engagements en matière de sécurité publique, PIC, et des protections des nouveaux GTLD? Il y a eu un avis du GAG sur les protections ou les sauvegardes des GTLD. Et cela porte sur le fait que les contrats peuvent contenir des engagements en matière d'intérêt public, PIC. Ensuite, risque de confusion sur l'abus du DNS, 4 pays en développement et le 5e domaine, les marques déposées. Voilà un petit peu les domaines sur lesquels nous allons nous concentrer pour étudier la question de la protection et de la confiance du consommateur. En ce qui concerne la navigation et l'utilisation sûre ou en sécurité des noms de domaine, l'une des questions principales que nous allons nous poser est le fait de savoir si le public peut arriver ou atteindre la destination qu'il souhaite atteindre. Est-ce que cette destination est sûre? Et puis, le fait de savoir combien de consommateurs sont au courant de ce que c'est qu'un GTLD. Nous pensons que cela est un sujet important. Par exemple, en ce qui concerne cette connaissance des consommateurs, il faudrait savoir quelles sont les attentes des consommateurs vis-à-vis des GTLD dont le nom a plus d'informations. Par exemple, .dot ou .com, c'est différent de .pharmacie ou .banque. Nous voulons savoir donc quelles sont les attentes du public par rapport à ces noms qui sont plus détaillés. Une autre question, est-ce que les consommateurs savent à qui signaler des problèmes? Par exemple, voilà un petit peu donc les domaines. En ce qui concerne l'impact des PIC et des protections, nous analysons quel est le rôle des sauvegardes dans les nouveaux GTLD. Les nouveaux GTLD bénéficient de plus de protection que les GTLD hérités. Et donc, quel est l'impact de cette différenciation? Les PIC sont en train d'être mises en œuvre. Nous voudrions savoir si cela est respecté au niveau des contrats. Et puis, il y a tout un éventail de GTLD qui va de GTLD qui sont très généraux au niveau de leur nom et qui couvrent des domaines très généraux comme email ou photo, jusqu'à des TLD qui appartiennent à des secteurs hautement réglementés tels que point banque ou plan pharmacie ou point compte. Donc nous voulons savoir si ces engagements en matière d'intérêt public ont un impact sur la confiance du consommateur vis-à-vis de ces noms de domaine. Diapo suivante. Ensuite, notre troisième domaine, c'est le risque de confusion et les abus ou l'utilisation malveillante du DNS. La première question que nous nous posons est de savoir si le consommateur risque d'être porté à confusion avec des chaînes de caractères qui sont similaires. Il existe donc une similarité, par exemple, qui peut avoir trait au singulier versus le pluriel, par exemple, jusqu'à des noms qui peuvent être similaires quant aux lettres qu'ils contiennent. Et cela peut porter à confusion et cela peut avoir un impact sur la confiance du consommateur. Ensuite, quand on pense d'utilisation malveillante du DNS, on pense aux réseaux zombies, on pense à l'hameçonnage, au phishing. Nous sommes en train de collecter davantage de données pour pouvoir comparer l'utilisation malveillante du DNS avec les GTLD hérités et avec les nouveaux GTLD. Attendez, ne changez pas la diapo encore. Ensuite, nous allons nous pencher sur les pays développés ou ce marché dans les pays développés et c'est un domaine assez intéressant. Si nous analysons cela du point de vue de la confiance publique, la question est de savoir est-ce que la faible participation des pays en développement au processus des nouveaux GTLD a un impact sur la confiance des consommateurs vis-à-vis de l'utilisation de ces nouveaux GTLD. Et finalement, il y a les questions liées aux marques déposées qui peut avoir un impact sur la confiance des consommateurs. Par exemple, est-ce que l'absence de restrictions qui peut entraîner une baisse de prix au niveau des GTLD, est-ce qu'un prix faible veut dire qu'il peut y avoir une plus grande possibilité d'utilisation malveillante de ces noms de domaine? Est-ce que ce modèle de prix peut avoir un impact sur le niveau d'abus qui peut avoir lieu? Et ensuite, la question des mécanismes de protection de droit que nous allons analyser. Voilà un petit peu un détail, c'est un petit peu un détail de ce que nous allons analyser. Si vous avez d'autres domaines que vous considérez importantes pour nous pour analyser, Jeff Newman, au micro, merci. Je voulais intervenir par rapport au PIC, aux engagements en matière d'intérêt public. Ce que l'on a l'impression on fait l'hypothèse que les protections et les PIC sont nécessaires en réalité et appropriées. Est-ce qu'il y a des études pour voir si ces protections et ces PIC contribuent vraiment à renforcer la confiance des consommateurs? Laurine prend la parole. Il y a déjà des données qui comparent les nouveaux GTLD avec les GTLD hérités. Je pense que on en conclut qu'il y aura des différences au niveau des abus que l'on pourra retrouver. Et je ne sais, on ne sait pas encore si cela va découler des PIC ou non. Pour le moment, il n'y a pas d'études concluantes qui puissent donner une réponse à votre question. Il faudrait voir d'ailleurs comment cela pourrait être mesuré. Jeff prend la parole. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup il y a beaucoup de discussions, disons, sur les protections ou les sauvegardes et sur leur importance pour renforcer la confiance dans la communauté des CTLD. Est-ce que l'on a mesuré si ces protections ont donné lieu aux résultats escomptés? C'est ça ce que le GAC essaye de voir. On essaie de voir s'il y a un moyen de mesurer cela. Voilà une première question. Ensuite, une façon de le faire, c'est de se dire, est-ce que les PIC ont fait une différence au niveau de la confiance des consommateurs par rapport aux TLD qui ne sont pas associés à des PIC? En ce qui concerne l'abus du DNS ou l'utilisation malveillante, quelles seront les exigences au niveau des contrats d'accréditation de bureaux d'enregistrement? Parce que ce sont des exigences nouvelles au niveau des contrats qui ont pour but de renforcer la sécurité et la confiance dans les TLD. Est-ce que ces nouvelles exigences ont eu pour résultat une baisse dans les cas d'utilisation malveillante du DNS? Ou bien y a-t-il eu des conséquences inattendues? Je ne sais pas s'il s'agit d'une étude formelle ou d'un document où on avait dit qu'il y avait eu beaucoup de noms de domaine qui avaient été supprimés à la suite d'une vérification au niveau du respect des exigences. Donc je pense que c'est une bonne opportunité pour prouver que toutes ces mesures sont efficaces pour améliorer l'environnement d'utilisation des TLD. Je fais l'hypothèse que l'une des études va se pencher sur la collision de noms de domaine pour voir si le retard des règles qui sont apparues ont eu des conséquences au niveau de la confiance dans cet espace. Je ne suis pas très sûre d'avoir compris votre dernière question, dit Laurine. La collision des noms, dit Jeff. Il y a eu... Jordan pourra m'aider. On a dit que si l'on met un nom de domaine immédiatement au niveau de la racine, cela va accroître les possibilités de collision avec des systèmes qui ont été mis en œuvre. Jordi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas comment expliquer cela. Jordi prend la parole. La question est la suivante. On avait l'impression où il y avait un risque identifié comme quoi il y avait des systèmes hérités qui pouvaient utiliser les mêmes espaces de noms de domaine qui avaient été alloués à travers le programme des nouveaux GTLD. Et l'inquiétude, c'était que ces systèmes hérités entraient en collision avec ce DNS public. Et on s'attendait à des conséquences à des mauvaises conséquences et des conséquences inattendues. Et donc l'ICANN a proposé un mécanisme d'atténuation. Pour que les opérateurs de registre devaient essayer de prédire quelles seraient en quelque sorte les cas de collision pour essayer de les atténuer avant qu'ils puissent avoir lieu. Et la question est de savoir si ce plan d'atténuation a eu des conséquences au niveau de la confiance. Je pense que c'était la question que Jeff voulait poser. Jeff prend la parole. Oui, parce que mettre en place ces mesures, est-ce que cela a eu pour conséquence de renforcer la confiance des consommateurs? Et cela pourrait être un lien avec la confiance, parce que la confiance, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles le DNSSEC a été mis en œuvre. Je n'ai aucune idée de comment cela peut être mesuré, mais cela devrait être mesuré. Je ne suis pas très sûre. Jonathan Suck prend la parole. Je ne suis pas très sûre que cela puisse se faire pour les nouveaux GTLD, parce que c'est quelque chose qui se produit de manière parallèle, en même temps. Y a-t-il d'autres questions? Parce que nous voudrions conclure cette partie de notre exposé. David, cela concerne ce que vous avez dit par rapport aux sauvegardes et aux PIC et que c'est important de pouvoir mesurer si cela a donné lieu à une augmentation de la confiance par rapport aux CTLD, aux GTLD hérités. Je pense que c'est l'une des difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés. Il est trop tôt dans le processus pour pouvoir collecter des données fiables qui nous permettent de prendre des décisions, notamment au niveau économique.
Thank you. Steve Metalitz prend la parole. J'ai quelques questions ou quelques remarques concernant les PIC et les protections et quelques réponses à ce que Jeff était en train de dire. Ma première question est concernant un point qui est inclus sur votre diapo, qui est le fait que l'on voit une différence entre les PIC obligatoires et les PIC facultatifs. Vous pourriez voir quelles sont les obligations ou les protections supplémentaires que les opérateurs de registre des nouveaux GTLD ont biffé de leur PIC. Et cela me semble important de considérer. C'est vrai que tout est en train de changer en ce moment, mais si l'on compte mesurer cela, on pourrait peut-être évaluer les différences. En même temps, je vois que le conseil d'administration, sur une lettre envoyée au GAC le mois dernier, a dit qu'il pourrait considérer le lancement d'une nouvelle série du programme des nouveaux GTLD. Je pense que c'est bien de ça qu'il parle, d'une révision. Et que dans ce cadre, on pourrait réviser quelles sont les meilleures pratiques mises en œuvre à travers les PIC. Donc, vous me direz peut-être que les meilleures pratiques devraient être reprises et quelles sont les actuelles. Mais pour répondre au GAC, le Conseil a également dit que chacun de ces groupes devrait considérer quels éléments de la communauté devraient présenter des PIC lors du programme des nouveaux GTLD dans sa prochaine série. Je me demande si vous avez discuté de cette demande du Conseil d'administration ou si vous les avez reçues même. Je sais qu'ils les ont envoyés au GAC, mais je ne sais pas s'ils les ont communiqués à ce groupe. Voilà ce que j'avais à dire concernant les PIC. Pour répondre à ce que Jeff disait, mais je devrais peut-être vous donner l'occasion de répondre. Lorraine prend la parole. Oui, quant au rapport direct avec le Conseil, à moins que Jonathan ait d'autres informations, je dirais que non. À titre personnel, je sais qu'il y a eu certaines discussions avec le GAC, et je dirais que la question large, en termes généraux, concernant les engagements d'intérêt public, qui comprenaient non seulement les PIC obligatoires, mais également les PIC facultatifs qui ont été soumis, serait une question à considérer au sein de notre groupe. Vous parlez d'idées de meilleures pratiques et d'exemples félicité ou d'exemple apprécié. Je pense que cela pourrait peut-être découler des appréciations de l'équipe de révision, mais je ne dirais rien d'autre. Je pense que c'est très pertinent. Jonathan, permettez-moi de conclure la question concernant les exigences dont parlait Jonathan et de l'effet ou l'impact. J'ai bien compris ce dont vous demander de savoir. Je ne pense pas que ce soit une question liée au nouveau GTLD, Jeff. C'est plutôt une question qui doit être vérifiée pour les TLD hérités, je pense. Surtout dans le cadre des exigences de la NTIA. Je n'ai peut-être pas très bien compris. Megan Richards prend la parole. Je suis membre du GAC. Et je voulais revenir sur votre premier commentaire. Le conseil d'administration avait suggéré qu'il y ait un comité qui soit créé avec des membres de la LAC et de la GNSO aussi pour évaluer quelles étaient les meilleures pratiques dans les PIC existants et pour évaluer comment ces engagements pourraient être utilisés d'une meilleure façon, même dans le cadre du lancement de la nouvelle série de GTLD. Et puis, comme Lauren disait, le sous-groupe s'occupe d'évaluer cela dans davantage de détails. Donc, je voulais signaler qu'il y avait ces deux aspects dans la question. Il faudrait vraiment évaluer les données pour voir si on arrive à identifier comment ces engagements ont été appliqués et s'ils ont été utiles. Ils ont été appliqués et utilisés et demandés, surtout pour les chaînes de haut niveau. Donc, ce n'est pas une question d'avoir des engagements pour tout. C'était plutôt ciblé à un public spécifique. Merci. Jeff Newman prend la parole. Merci. Je pense que l'ICANN applique le mot « engagement » d'une manière beaucoup plus large que le GAC. Donc, on a une spécification numéro 11 qui est associé aux engagements d'intérêt public, qui porte sur les chaînes très sensibles. Je ne m'exprime peut-être pas bien là-dessus, mais c'est vrai que c'était une recommandation du GAC qui a déclenché cette spécification. Mais de toute façon, le GAC recommande des engagements d'intérêt public pour tous les TLD, comme l'analyse technique qui faudrait être réalisée sur tous les TLD pour voir s'il y a des réseaux zombies, voir s'il y a du logiciel malveillant. Donc c'est de cela que le GAC parle lorsqu'il parle d'engagement d'intérêt public. Pour répondre à Steve, j'ai regroupé les pics de 2013 avec les nouveaux GTLD parce que, si vous regardez l'historique, l'ICANN avait dit qu'on ne pouvait vendre des nouveaux GTLD qu'en signant le RAA 2013. Donc je les ai regroupés, bien que cela ait peut-être dans deux catégories différentes. Ce n'est peut-être pas à moi de les regrouper, mais lorsque l'ICANN dit « voici ce que nous avons fait dans le cadre du programme des nouveaux GTLD qui sont maintenant plus sûrs, auxquels vous pouvez faire confiance », je pense que la signature du RAA 2013 est comprise entre la liste de choses qui vous font penser que vous devez faire confiance aux nouveaux GTLD. Jonathan prend la parole. Je dirais ici que pour bénéficier Aaron Pace, nous allons considérer la question de la publication et de la publicité dans l'équipe de la confiance et nous n'allons pas réviser les décisions individuelles du conseil d'administration, mais nous allons considérer la question de la publicité. Jonathan Sack, ici au micro. Nous allons passer à la troisième sous-équipe de l'équipe de révision qui porte sur le processus de dépôt de candidature et d'évaluation des candidatures. Au début, on avait structuré les travaux de la manière suivante, qui n'est pas bien articulée, mais on s'était dit qu'il fallait demander si le processus de dépôt de candidature et d'évaluation était efficace au niveau 2 et on avait différentes clauses. Donc d'une part, on se demandait s'il était efficace au niveau 2 adresser les nécessités des secteurs, des régions et des marchés mal desservis. Donc est-ce que cela dessert la communauté, s'il est fourni dans des différents domaines, s'il encourage la participation de fournisseurs de la région, si cela fournit des mécanismes de résolution de litiges efficaces pour les régions en développement, si pour examiner des barrières d'accès aux participants potentiels des économies émergentes pour les IDN et pour le support ou le soutien aux candidatures qui apparemment n'était pas un bon outil parce qu'on nous a dit que l'outil existant n'était pas bon. On s'est demandé pourquoi. D'autre part, le processus était-il efficace pour empêcher que la délégation ou prévenir que le fait que la délégation de TLD pourrait être nocive ou portée à confusion dans le processus en instance, le processus d'objection en instance pour les confusions entre chaînes, pour les confusions entre singulier et pluriel, ou les décisions ou les recours d'appel qui n'étaient pas cohérents. Donc on a évalué tout cela pour cette chaîne-là. D'autre part, le processus était-il efficace pour permettre aux communautés spécifiques d'être desservies par un tel dépertinent? Comment définit-on les candidats communautaires et comment conçoit-on un processus d'évaluation de candidature qui soit approprié? On pense souvent aux IDN, mais on pense également au point 4. Et comment cela dessert une communauté spécifique? Donc, au sein du groupe, on essaie de trouver un moyen qui nous permette d'évaluer le succès du processus d'évaluation des candidatures pour les candidats communautaires. Le processus a-t-il été efficace pour fournir une égalité dans la participation au programme? On avait le risque de trop se centrer sur l'aspect économique parce qu'il y avait des acteurs qui voulaient désavantager ceux qui ne pouvaient pas participer au même niveau. Puis, y a-t-il eu des barrières linguistiques dans le programme des nouveaux GTLD? Y a-t-il eu suffisamment d'initiatives de sensibilisation et de diffusion dans ce qui se passait dans le programme, qui a permis que les personnes participent au programme? Et puis, y a-t-il eu suffisamment d'accès à l'infrastructure pour que les personnes de partout dans le monde puissent accéder au programme des nouveaux GTLD? L'autre question est si le processus a été efficace dans le recueil et dans la mise en application des avis de politique publique du GAC. On se demande si la connexion avec le GAC fonctionne de manière efficace, en définitive. Donc, on pense aux engagements d'intérêt public qui sont facultatifs et ceux qui sont obligatoires, à la participation précoce du GAC, s'il a été suffisamment précoce, et si, aux avis du GAC, ont été correctement formulés. Tout cela est lié au processus d'évaluation et d'élaboration de politiques pour voir ce qui peut être fait et pour pouvoir faire que le processus soit plus efficace. Voilà les questions principales dont nous discuterons concernant le processus de dépôt de candidature et d'évaluation des candidatures. Si vous avez d'autres sujets d'intérêt ou d'autres suggestions de ce qu'il faudrait que l'on discute, qu'on n'a pas présenté, c'est le moment de le faire. Alice Jensen, on a un commentaire de Laurie Showman qui participe à distance. Elle dit « Le commentaire de Jeff concernant les PIC est noté. Les membres de l'INTA ont déjà augmenté leurs efforts concernant l'application des PIC, surtout pour ce qui est des prix. L'ICANN dit que l'application d'un PIC est un remède ou une réparation privée pour les parties atteintes et que c'est un recours que ces parties peuvent exercer plutôt qu'une responsabilité de l'ICANN. Donc, il faudrait analyser l'application des PIC qui pourrait être très utile comme recommandation et pour fournir une orientation dans l'avenir. Jonathan prend la parole. Oui, Laurie, c'est bien ce que l'on discute en ce moment. L'application des PIC fait partie d'un nombre de discussions au sein de l'ICANN et bien sûr, nous avons également repris ce sujet. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? J'ai une autre de Laurie, dit Alice Jensen. En fait, je pensais qu'on pourrait travailler sur ce type de plan. Merci Laurie, dit Jonathan. Une personne non identifiée. J'ai deux questions très similaires. Est-ce qu'il faudrait parler des mesures présentées par les registres en même temps que des mesures de l'ICANN dans ce cadre? Jonathan, oui, c'est une bonne question. Je pense que vu qu'on a posé ces questions et qu'on essaie de les répondre de cette manière, on essaie de justement permettre que ce type d'introduction nous permette de décomposer les différentes étapes et les différents sujets qu'il faudrait que l'on aborde. Donc c'est pour cela qu'on a commencé à travailler en sous-équipe pour pouvoir mieux nous concentrer sur les sujets d'intérêt. Si la situation change, cela devrait être un résultat de la situation, ça devrait être quelque chose d'organique. Ça ne correspondrait peut-être pas à une question de mise en œuvre et ça s'inscrirait dans le cadre du programme des nouveaux GTLD. L'intervenant, ce n'est peut-être pas une question intelligente, mais j'étais intéressée par les candidatures et par différentes candidatures. Donc, par exemple, shopping, store ou boutique ou en le mot en japonais, lorsqu'on parle de concurrence pour les consommateurs, y a-t-il un moyen qui nous permette d'évaluer cela? Pourquoi les personnes choisissent d'enregistrer le mot d'une manière ou pas d'une autre? Serait-il intéressant de répliquer ce type d'étude dans l'avenir? Je ne suis pas expert en économie, donc je ne pourrais pas le savoir. Jordan Buchanan prend la parole. Oui, je pense que c'est l'aspect clé d'une des questions que nous avons identifiées au sein de notre sous-groupe, qui est si la valeur de ces différentes options pourrait porter à confusion entre les utilisateurs. Donc nous allons considérer cette question. C'est vrai qu'il est peut-être plus difficile d'obtenir les données appropriées pour répondre à ces questions, mais parmi les données que nous allons évaluer, nous allons comprendre les services aux utilisateurs de services Internet et aux bureaux d'enregistrement pour voir comment ils interagissent avec ces différents noms de domaine. Ce seraient peut-être les meilleures données pour évaluer comment les personnes ressentent ces modifications. Jonathan prend la parole. Merci. Quant à cela, nous avons la question de la définition du marché. Nous essayons de trouver une manière qui nous permette de trouver quel est le marché que nous voulons considérer ou étudier. Et si vous évaluez la dernière version du rapport du groupe du marché et de l'analyse du marché, vous aurez peut-être affaire à une segmentation particulière du marché, comme vous venez de le faire. Donc, on a différents noms de domaines pour les courses, différents noms pour la photographie, et chacun peut créer son propre marché et créer une concurrence au sein de ce même marché. Mais au bout de compte, on ne sait pas très bien qu'est-ce que cela va donner, à quoi ça correspond, parce que on ne sait pas quelle est la concurrence entre les différents mots pour les courses et pour les achats, ou si on devrait comparer musique et achat, par exemple. C'est comme les oranges, les pommes et les poires. Ce n'est pas toujours évident de les comparer. L'intervenant, oui, c'est la valeur d'être le premier à inscrire un nom de domaine, à l'enregistrer, parce que c'est cela qui a un impact sur le processus. Je ne sais pas si le fait d'être premier a une valeur ou pas. Jeff, dit Jonathan. Jeff Newman prend la parole. Quant au marché, vous devriez peut-être évaluer le fait que lorsque l'accord du .com en 2006, 7 ou 8, je ne sais plus, a été signé, le département de justice avait réalisé une analyse que le département de commerce lui avait demandé, et le département de justice a évalué donc la question de si le .com devrait pouvoir augmenter son prix ou pas, etc. Et le département de justice est arrivé à une opinion sur le marché. Donc, ce serait peut-être utile de considérer cette étude. Je peux peut-être la trouver si vous ne l'avez pas, mais ce serait peut-être utile de voir quels étaient les fondements qui ont permis l'augmentation de prix du .com, sur quoi cette augmentation s'est fondée et pourquoi il n'y a pas eu d'accord là-dessus. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'équipe de révision du CCT et on a reconnu qu'il y a eu des chevauchements entre les différents processus des sous-équipes. On s'est rendu compte qu'il y avait des chevauchements entre le travail fait concernant le PDP des procédures pour les séries ultérieures de GTLD et nous allons travailler ensemble avec les autres sous-équipes de CCT pour ne pas doubler nos efforts, pour travailler ensemble plutôt en synergie. Et j'assume que la GNSO aura approuvé ce processus sur les mécanismes de protection de droit parce qu'on compte lancer un PDP là-dessus. Donc pour évaluer les mécanismes de protection de droit, je pense que les travaux seraient différents des processus suivis pour évaluer la concurrence ou la confiance des consommateurs. Donc les mécanismes de protection de droit auraient-ils aidé à avoir davantage de confiance de la part des consommateurs, par exemple? Ou alors le PDP considérait les procédures spécifiques ayant permis cette augmentation de la confiance pour voir si le programme des nouveaux GTLD a été efficace dans ce domaine? Je ne sais pas si vous avez considéré ces interdépendances. Jonathan prend la parole. Merci, Jeff. Je pense que cela correspond à la même catégorie que le PDP de procédure. Il va falloir voir quels sont les chevauchements entre les deux groupes et voir dans quelles intersections nous pouvons collaborer. il faudrait évaluer si les mesures prises ont été des mesures de protection efficaces pour les titulaires de droits de marque, par exemple. Et il me semble que nous allons considérer cela au niveau général pour considérer les coûts de l'enregistrement de nom de domaine, alors que le PDP le regardera en détail, le considérera en détail pour voir si la source de cela a été la faisabilité de la mise en œuvre du bureau d'échange concernant les informations de marque, pour voir si cela a représenté, bref, une protection efficace pour les titulaires de marque. Y a-t-il d'autres questions? Denise? Denise Michel de Facebook. J'ai déjà envoyé un email à l'équipe de révision et le mail ne leur est pas parvenu, donc je ne sais pas si on a eu un problème au niveau de l'adresse. Mais en tout cas, on a eu différentes études, différentes révisions, différentes initiatives qui semblent être connectées avec vos travaux. Et je voulais souligner cela, étant donné que tout cela était sur le courrier qui m'a été rendu. Concernant le rapport de mise en œuvre publié par le personnel, l'unité constitutive des entités commerciales avait des suggestions concernant le rapport de mise en œuvre préliminaire et un nombre de ces initiatives et suggestions n'ont pas été incorporées, mais il me semble qu'elles seraient peut-être utiles et qu'il serait peut-être intéressant que l'équipe de révision les considère. Donc je voudrais attirer votre attention là-dessus, ainsi que sur d'autres commentaires qui ont été fournis sur le rapport préliminaire de mise en œuvre. Et puis d'autre part, vers la fin de janvier, le personnel a tenu différents appels concernant l'utilisation malveillante des DNS. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de cet appel. Donc je me demande si vos coordonnées avec le personnel qui travaille là-dessus, étant donné qu'il pourrait peut-être avoir une possibilité d'explorer davantage cet espace avec l'équipe de CCT. Jonathan Sack, merci Denise. On a reçu votre courrier et nous allons considérer tout ce que vous mentionnez là-dessus, y compris les exigences et les commentaires de l'unité constitutive des entités commerciales. On vous en remercie et bien sûr, nous collaborons avec le personnel de l'ICANN et nous allons considérer différentes perspectives des mêmes sujets. Karen Lentz prend la parole. Merci Jonathan. Je voudrais approfondir un peu sur certains des commentaires de Denise. Le rapport de révision de la mise en œuvre qui a été préparé par le personnel, qui faisait partie des documents qui ont informé les travaux de cette sous-équipe, constitue un rapport qui n'est pas fréquent. Le personnel n'élabore pas très souvent des rapports de ce type. Donc on a essayé de présenter les informations du rapport sans porter à confusion au sujet de la perspective de qui était représenté dans ce document. Et la plupart des commentaires que nous avons reçus, ou plutôt tous les commentaires que nous avons reçus, ont été décrits et analysés dans notre rapport de la consultation publique que nous vous avons remis ensemble avec le rapport. Donc je voulais préciser que les commentaires du BC et des autres ont déjà été envoyés à votre sous-équipe. Concernant la deuxième question au sujet des activités de révision de l'utilisation malveillante des DNS, on a eu différentes activités de recueil d'informations concernant les mécanismes de protection de droits, par exemple, qui ont été inclus dans ce rapport. On commence un peu plus tard avec ces travaux, mais nos considérations sont similaires à ce que nous ferions. Donc, on a commencé par collecter les données que nous avions, on a organisé des périodes de consultation publique, et puis nous avons tout remis à l'équipe de révision qui va prendre des décisions concernant les mesures à prendre dans l'avenir. Jonathan, merci Karen. Y a-t-il d'autres commentaires? Bien, pour ceux qui participent à distance, vous voyez sur cette diapo que nous avons une adresse de courrier électronique à laquelle vous pouvez nous envoyer des recommandations supplémentaires de sujets ou de sources de données qu'il faudrait que l'on trouve ou pour nous souhaiter vos meilleurs vœux. Donc, sentez-vous libre de nous contacter. Je dirais en même temps que toutes les réunions de l'équipe de révision du CCT sont ouvertes. Le public est libre de venir observer nos réunions. Vous avez des salles Adobe Connect à travers lesquelles vous pouvez écouter nos conversations. Il n'y a pas moyen d'interagir avec nous parce que uniquement les membres ont la possibilité de participer et de prendre la parole. Mais autrement, vous pouvez nous contacter si à la fin des réunions, vous avez des idées à nous faire parvenir. C'est bientôt. Et voilà notre photo. Donc, merci tout le monde. On n'est qu'au début de nos travaux, mais on apprécie toutes les informations que vous nous faites parvenir. En ce moment, à l'ICANN, il y a beaucoup d'activités en cours et nous essayons de trouver une manière d'être utile pour le processus. Merci et bonsoir.